faudra que ton angoisse disparaisse si ce pas. Voilà l'intraveineuse, ta solution à cause. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Bonjour Sylvie. On t'a pas entendu au micro parce qu'il était fermé.
Alors bonjour.
Voilà. Et aujourd'hui, au sommaire de l'émission... un article de Libération, ça va, il est encore récent, il est du 17 décembre 2023, et ça parle de la santé mentale sur les réseaux sociaux. Instagram et TikTok, réseaux soucieux de la santé mentale. Alors je lis le chapeau pour commencer de cet article de Katia Danso-Cotouré dans Libé. Signe d'un tabou de moins en moins prégnant, les comptes dédiés aux troubles psychiques se multiplient. S'ils saluent leur utilité, certains professionnels pointent toutefois les risques d'auto-diagnostic et les possibles phénomènes de mode chez les plus jeunes. C'est parti. Elle scrolle quasiment tous les soirs sur Instagram, une fois rentrée du boulot. Anna, parisienne de 27 ans et stagiaire dans un cabinet d'avocats, est abonnée à de multiples comptes abordant la souffrance avec laquelle elle compose depuis l'adolescence. Dépression multiple et troubles d'anxiété généralisés. Alors, elle fait défiler les publications de comptes tels que Bonjour Anxiété, 436 000 abonnés sur Instagram, Ciao Anxiété, 51 500 abonnés sur Instagram et 44 300 sur TikTok, ou La Santé Mentale Compte, 51 800 abonnés.
Juste une parenthèse. Qu'est-ce que tu penses de ces intitulés de comptes? Je veux dire, rien que ça, ça donne à réfléchir, je trouve. Enfin, qu'est-ce qui attire? Je trouve que c'est pas la même chose de dire bonjour ou au revoir déjà à l'anxiété.
Ouais.
Et ensuite, la santé mentale compte. C'est pas obligatoire c'est spécial d'appeler un compte de cette manière. C'est pas du tout, ces trois comptes impliquent pas, je trouve, du tout le même type de tête de gondole.
Oui, en s'approchant, en analysant, oui, effectivement, les titres de ces réseaux, enfin de ces
comptes, oui.
Par exemple, c'est marquant sur la santé mentale compte, parce que c'est référence aussi à Black Lives Matter, par exemple. Et à ce moment-là, on se dit, oui, alors c'est, si tu sens qu'il y a une stigmatisation de ta maladie, tu es un peu dans la lutte quand tu vas sur un compte, la santé mentale compte. Quoi.
C'est bien. C'est surtout que, enfin moi, tel que les gens ne voient pas forcément la référence, je t'avouerais que je ne l'ai même pas vu tout de suite.
Ça aurait été
j'aurais mieux compris, mais c'est surtout que ça implique pas la même chose de dire que tu veux dire au revoir à l'anxiété et de dire que tu trouves que la santé mentale ça compte, parce que la santé mentale compte, j'ai un sentiment peut-être abusif, mais de normes, quoi, enfin d'appel à la normalité, à une notion de normalité, qu'on peut vouloir dire au revoir à l'anxiété, Mais santé mentale, moi, ça me met un peu mal à l'aise. Ça me donne une impression de stigmatisation des gens qui seraient, tu sais, en mauvaise santé mentale, quoi. Enfin, je sais pas si tu le ressens comme moi ou si j'abuse de le voir de cette manière, comme un appel à la norme.
Ben ce terme de santé mentale m'a toujours un petit peu fait dresser les poils sur
moi aussi, peut-être.
Mais, parce que ça évoque la maladie mentale en fin de compte. Effectivement, on peut pas parler de santé mentale sans évoquer la maladie mentale en fait.
Bah oui, en même temps, on peut dire l'anxiété, c'est pas quelque chose qui est ressenti comme positivement et vouloir lui dire au revoir, pourquoi pas. Mais l'idée de la santé mentale, ça implique que tu peux vouloir dire au revoir à un symptôme sans vouloir pour autant t'approcher d'une norme, comme quoi moi je suis un modèle de quelqu'un qui chante du thé au lavabo toute la journée. Tu vois, je veux dire, non, c'est un peu... je rigole, mais... Non, mais je veux dire, quelqu'un qui est tout le temps vraiment bien... Tu vois, ça me fait penser à Janoff, qui fait un chapitre entier pour te décrire que tu veuilles pas souffrir, c'est une chose, mais il fait un chapitre entier dans le Cri Primal pour vanter la santé mentale, tu vois. Dire que voilà comment est quelqu'un qui est en bonne santé mentale, il écoute pas de la musique de sauvage ou de la musique ridicule, il écoute de la musique classique, il est calme, posé, jamais un mot plus haut que l'autre, quoi qu'il arrive, enfin tu vois, et il décrit ça, tu vois. Et je trouve que c'est pas parce que tu veux pas souffrir d'anxiété ou d'angoisse et tout, que ça signifie que tu as pour autant une notion de ce que c'est que d'être en bonne santé mentale. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je vois pas ça aussi binaire que ça, quoi. Enfin,
oui.
Tu vois ce que je veux dire, voilà. Enfin, bon, continue, excuse-moi, c'était une parenthèse sur les intitulés. Voilà.
Ces interruptions sont les bienvenues. Et je remarquerai toutefois que tout le monde ne connaît pas ce chanteur que tu évoques.
Lavabo, je sais pas. Rien dit.
Mais bon. Alors.
Il est très gay, c'est tout, dans tous les sens du terme. Voilà.
Alors donc. Anna fait défiler les publications de comptes tels que Bonjour Anxiété, Ciao Anxiété ou La Santé Mentale Compte. J'ai vu pas mal de spécialistes ces dernières années en raison de mon mal-être psychique, mais le temps passe et je continue malgré tout à faire des crises d'angoisse, raconte-t-elle. J'en ai un peu marre de passer d'un psychiatre à l'autre, de me bourrer de médocs ou de suivre des psychothérapies qui ne mènent à rien. Savoir que je ne suis pas seul et me reconnaître dans certains postes me soulage. Santé mentale pour tous, mieux vivre le TDAH, tout sur les TCA, ces pages Instagram ou TikTok diffusent du contenu qui permet de reconnaître les symptômes de différents troubles et pathologies psychiques, dépression, troubles paniques, burn-out, phobie sociale, troubles de conduite alimentaire, TCA, ou troubles
de... C'est quoi TCA ?
Troubles donc des conduites alimentaires, TCA. Mmh. Ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH ou sans H. De vulgariser le propos scientifique et de livrer des conseils ou des messages d'encouragement. Le tout grâce à du dessin, des posts colorés ou des vidéos humoristiques. Alors après, on a une liste, disons, d'intervenants qui tiennent des comptes, quoi. Ils sont influenceurs sur des comptes. Donc il y a le compte Bonjour Anxiété, le compte La Santé Mentale Compte, et Tapsy sur Insta. Voilà. Et il y en a d'autres après. Alors, il y a des sites non professionnels et des sites professionnels.
Ouais. Oui, justement, oui, voilà, c'est bizarre parce que mettre sur la même ligne Tapsy sur Insta et puis chose qui est de l'ordre de l'autogestion, finalement.
Alors, Tapsy sur Insta, c'est justement une professionnelle, une psychologue.
Oui, par définition. Oui.
Et voilà. Et il y a d'autres sites professionnels comme ça, Culture Pop et Psy. Et, pro, voilà, c'est pro ou alors pas pro. Alors donc, briser le tabou. Alors, après j'aurai peut-être une remarque à faire sur ce mot tabou. Marco Coiffard, 30 ans, a créé la page Bonjour Anxiété en 2021. Serait moi qui se consacre à l'animation de son compte à plein temps, affirme avoir voulu partager son expérience, lui-même atteint d'anxiété chronique. Selon lui, il y a encore 2 ans, le sujet était très peu évoqué sur les réseaux sociaux. Il était important pour moi d'en parler avec des mots simples et compréhensibles pour tous. Cela dit, au-delà du partage avec les autres, ce compte, je l'ai aussi créé pour me rassurer et me sentir un peu moins seul. C'était difficile d'en parler avec mes proches qui n'y comprennent pas grand-chose. En septembre, celui qui s'appuie sur ses propres recherches a publié « Bonjour Anxiété », Mango Édition, 160 pages, voilà, un livre qui s'inscrit dans la continuité de son travail de vulgarisation sur Instagram. L'idée est de véritablement ouvrir le dialogue sur des sujets difficiles dans un cadre bienveillant et empathique. Il affirme que 85% de sa communauté sont des femmes âgées de 18 à 45 ans. Donc lui c'est plutôt c'est pas un professionnel mais une personne un peu concernée puisqu'il est lui-même atteint d'anxiété. Donc il fait ses propres recherches et en fait donc
ça fait toute la, enfin je trouve que ça fait toute la différence. C'est un peu comme le réseau qui est des entendeurs de voix dont il parle pas et dont je ne sais pas s'il rameute sur des réseaux sociaux, mais ça fait toute la différence que la personne soit... Enfin, je sais que quand on est soi-même, que ce soit anxieux ou que t'aies un problème quelconque, ça fait toute la différence que tu puisses t'adresser à quelqu'un qui te comprend parce qu'il le vit aussi, ou quelqu'un qui, quelque part, a un rapport beaucoup plus condescendant de quelqu'un qui, justement, serait un modèle de santé mentale et qui va être plus condescendant puisque c'est lui il va bien et toi tu vas pas bien enfin donc je trouve qu'il y a une inégalité.
La frontière est pas toujours si je pense au réseau de l'entente de voix, la frontière est pas toujours très nette entre psychologue et entendeur de voix puisque des entendeurs de voix eux-mêmes peuvent devenir psychologues. Comme Marius Rome ou.
Ça fait quand même. Je trouve que ça fait une différence. Oui. Que ce soit quelqu'un qui soit concerné et qui donc va pas te traiter comme si t'étais inférieur à lui parce que lui, il est en bonne santé, la santé mentale compte, et toi, la tienne est pas bonne et la sienne est bonne. Mais sinon, sur tabou,
Sur le mot tabou, c'est-à-dire que. Ça va apparaître peut-être un peu plus loin dans l'article, c'est que le tabou, c'est le tabou de quoi, en fait ? Et ça, c'est pas précisé.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Bon, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard quand on va rencontrer on va retrouver le terme. Alors, il en va presque de même pour Anna, alors avec un H cette fois, 28 ans, qui a créé et la page Instagram La Santé Mentale Compte, durant le premier confinement en 2020. Parmi ses abonnés, majoritairement âgés de 18 à 34 ans, 85% sont des femmes. Les réseaux sociaux aident à briser le tabou qui a la vie dure de la santé mentale, dit-elle. L'anonymat de certains abonnés atténue la peur du jugement. C'est aussi moins engageant et énergivore que de se déplacer en centre médico-psychologique que de contacter un psychologue. Analyse la Parisienne, social manager pour un réseau d'écoles d'art. Alors c'est là qu'on retrouve le mot tabou, briser le tabou qui est à la vie dure de la santé mentale. Et donc il y a l'idée du jugement. Le tabou, c'est en l'occurrence, ce serait de dire la santé mentale compte, je pourrais dire, plutôt que la stigmatisation de personnes de cette altérité dont on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas, en fait. Bon. Moi, je voyais un autre tabou, en fait, aussi, mais qui était beaucoup plus intéressant pour nous, c'était le fait que, à travers ces réseaux, on va voir aussi par la suite, à travers ces réseaux, il y a de plus en plus, finalement, de psychiatrie et on parle de plus en plus de santé mentale sur les réseaux sociaux et dans la société. Et il y a un développement finalement quelque part de la de la psychiatrie, de la chose psychiatrique en quelque sorte, d'une manière autre que les manières, la façon traditionnelle qui était le secteur par exemple ou le voilà ou l'hôpital, c'est-à-dire là il y a une étendue, une psychiatrisation des des situations, presque de toutes les situations, on pourrait dire, dès qu'on a une petite angoisse, ça y est, on se demande s'il n'y a pas un problème de santé mentale, ou dès qu'il y a une petite déprime, est-ce que c'est un problème de santé mentale ?
J'ai pas le sentiment que ça date du tout de cette différence, qu'elle date des réseaux sociaux, parce que il y a toujours eu des psys à leur compte libéraux, et ce n'est pas la même indication, on va dire. Moi, par exemple, quand j'étais ado et que ma mère m'a envoyé chez un psychiatre parce que je m'intéressais un peu trop aux garçons, et que le psychiatre a accepté ma clientèle, on peut dire, que je n'avais absolument pas sollicité personnellement, c'était pas un cas où il a été question de m'enfermer. Je sais pas jusqu'où il aurait fallu que j'aille pour qu'on dise elle ressort de l'hôpital. Il y a toujours eu des psys à leur compte, même dans le privé, pas seulement des psychanalystes, même des psys que les gens allaient voir, ou surtout, puisque je parle de ma mère qui m'envoie voir un psychiatre, des gens qui envoient leur gosse chez le psychiatre pour des raisons du genre il est homosexuel, il travaille pas à l'école, il fait des bêtises, je sais pas, enfin tu vois, t'as le sentiment que je sais pas s'il y a vraiment plus de psychiatrisation libérale. Le fait est que c'est des commerçants. Enfin, je m'excuse d'être un peu brutale, mais comme tous les commerçants, ils investissent tous les espaces de publicité possibles, et s'en est un. Et ils sont les psychiatres ne sont ni plus ni moins que des libéraux. D'ailleurs, on dit j'exerce en libéral et tout, qui veulent ramasser la monnaie et qui veulent ponctionner une clientèle possible, y compris, par exemple, le psychiatre n'a pas détrompé ma mère quand elle lui a dit. J'ai lu son journal, elle sort avec un garçon, j'avais 15 ans, il lui a pas dit non mais ça va pas, il a bien voulu de ma clientèle. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Ce qui est différent, c'est finalement le support publicitaire, et peut-être qu'on le sait bien, même nous en tant que militants, on envoie les annonces de nos débats ou des choses ou des manifestations ou des choses qu'on fait sur internet. C'est, tu vois, je veux dire, on essayait autrement avant, mais à partir du moment où tu as un moyen de faire de la pub pour ces commerçants que sont les psychiatres en question, tu fais tout ce que tu peux pour essayer de faire venir les clients, quoi. Enfin, peut-être que tu me trouves un peu trop brutal de les présenter comme ça, non, tous ces gens si bien intentionnés.
Pas du tout. Donc, du coup, je poursuis l'article. Anna, donc, affirme que son compte joue un rôle d'éducation et d'orientation et permet de faire un premier pas en douceur vers une réelle prise en charge. Ce sont plutôt les personnes de 15 à 18 ans qui m'écrivent en message privé, souvent pour me demander des conseils, parfois des diagnostics, mais surtout des ressources. N'étant pas une professionnelle de santé, je redirige toujours vers des numéros d'écoute, des plateformes adaptées, et j'essaie de les guider au mieux. Donc, fin de citation. La santé mentale n'est pas seulement abordée par des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé sur les réseaux sociaux. Les psychologues et psychanalystes y sont nombreux, et les médecins, tels les psychiatres, ne sont pas en reste. Ager Mogahadi, psychanalyste de 36 ans, vit et exerce en libéral à Paris. En 2019, elle a lancé le compte Instagram « La psy qui cause », 2700 abonnés. Je trouvais que le seul moyen pour ma discipline de résister au temps était d'avancer avec une forme de spontanéité propre à notre époque, avance la thérapeute. S'il m'arrive aujourd'hui de recevoir en cabinet des patients qui sont tombés sur mon compte, cela n'était pas mon objectif premier. Je cherchais plutôt à être dans la vulgarisation et la proximité. Et de rappeler qu'elle n'évoque évidemment jamais de propos tenus par un patient lors d'une consultation sur sa page. Même ligne de conduite pour Selma Taouin, psychologue de 29 ans exerçant en libéral à Toulouse. Il y a de plus en plus de pages qui abordent la thématique de la santé mentale, mais cela vire un peu à la pop psychologie. Lorsque tout le monde y apporte son grain de sel, sans l'expertise ou un background suffisant de connaissances, mon activité en ligne a pour objectif d'être et de rester une référence fiable tout en vulgarisant. Défend celle qui a lancé le compte Tapsy sur Insta. 26 000 followers sur Instagram et un peu plus sur TikTok. Donc, créé lors du second confinement de 2020. Tous reçoivent donc des messages privés entre demandes de conseils et témoignages parfois difficiles, pointe Anna, tant de la part de jeunes adultes que d'adolescents. Les gens me racontent leurs problématiques et cherchent à obtenir des conseils. Chose délicate car Instagram et l'instantanéité des réseaux sociaux donnent l'impression qu'il y a des conseils magiques à offrir en message privé, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, reprend Selma Taouin. Sinon, ce sont des personnes qui me posent des questions concernant mon parcours, me demandent des conseils pour approfondir le contenu d'une publication, des ressources scientifiques ou une recommandation pour trouver un psychologue. Bref, tout comme au cabinet, il n'y a pas de routine. Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre exerçant à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, auteur et enseignant à la Sorbonne, est le créateur du compte Instagram Culture Pop et Psy, 11 600 abonnés, et surtout le fondateur du festival du même nom, qui a connu sa deuxième édition fin novembre.
Excuse-moi, tu as une idée de ce qu'ils entendent exactement par culture pop ? Ils le disent un peu plus loin ? Ça veut dire quoi ?
Alors, moi, non, je ne sais pas. Pop et psy, c'est-à-dire, ben, en fait, la psy, on la rend populaire peut-être un peu, c'est ça.
Mais parce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui est insultant comme terme ou au contraire que ce serait quelque chose de... Ouais, c'est super moderne, les jeunes...
Alors, insultant, je ne sais pas, mais disons que j'ai une certaine critique quand même.
Oui, tu vois, plutôt quelque chose de critique.
J'ai l'impression que plutôt c'est du marketing. Quoi.
Oui, c'est du marketing.
C'est Pop et Psy pour attirer.
Pour attirer plutôt.
Ah oui, bien d'accord. Sûr. Ouais. Non, c'est moi qui vais être plutôt critique par rapport à ça.
Oui, d'accord.
Et surtout, donc, il est le fondateur du festival, donc Pop et Psy. Qui a connu sa deuxième édition fin novembre. Les réseaux sociaux contribuent à un effet de visibilisation de troubles mentaux fréquents et qui concernent donc une grande partie de la population, note-t-il en précisant ne pas donner de conseils médicaux ou mener de consultations sur les réseaux sociaux conformément à la déontologie. Lors de la dernière édition du festival Pop et Psy, une table ronde s'est tenue autour du rapport entre santé mentale, réseaux sociaux et génération Z, personnes nées entre 1997 et 2010, bien que les délimitations varient selon les définitions. Les adolescents sont en effet nombreux à scruter TikTok ou Instagram en quête de diagnostic sur leur ressenti psychique. En témoigne un article du New York Times dans lequel une Américaine de 17 ans, Kiana, raconte avoir trouvé sur TikTok des informations sur le trouble de dépersonnalisation, déréalisation, une forme de trouble dissociatif. Elle finit par être persuadée d'en être atteinte sans qu'un professionnel ne lui confirme. Plusieurs études attestent du caractère chronophage ou du contenu parfois délétère de ces plateformes qui conduisent à des troubles de l'humeur chez les adolescents. Alors là, je ne sais pas comment, par quel biais des plateformes conduisent à des troubles de l'humeur, mais
je voterai pour la mauvaise foi.
Oui.
C'est de la personne qui dit ça, quoi.
Oui.
Et concurrence déloyale. Si les gens commencent à se procurer des choses plus efficaces et puis gratuites par-dessus le marché, on n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre pourquoi les professionnels sont verts, hein, quand même.
N'est-ce pas paradoxal de parler santé mentale sur des réseaux sociaux qui, justement, peuvent altérer leur état psychique ? Bon, ça c'est... Voilà. C'est là que... nos enfants et adolescents qui sont l'avenir du... on va au Chili. Hein. Nos enfants et adolescents qui sont l'avenir du Chili et dont les droits et devoirs ne sont pas explicitement garantis dans ce projet, a martelé l'ancienne présidente socialiste Michelle Bachelet dans une tribune publiée par El País. Quant à la droite, elle s'efforce de présenter le scrutin de ce dimanche comme un référendum contre la coalition de gauche au gouvernement et son chef... je me suis trompé d'article, c'est pour ça.
Santé mentale compte.
Je reviens. Parler santé mentale sur les réseaux sociaux. Est-ce que... Voilà, la question. Commentaire. C'est là que l'on peut véritablement capter les jeunes et parler leur langage. Il n'est pas rare que je me serve comme support narratif avec mes jeunes patients de ces pages qui sont, selon moi, des armes de déstigmatisation massive et un moyen de faciliter l'orientation vers des professionnels. Pose le pédopsychiatre Jordan Sibeoni, praticien hospitalier au sein du service universitaire de psychiatrie de l'adolescent d'Argenteuil et chercheur en santé publique. Il affirme que certains de ses patients adolescents arrivent en consultation en évoquant un diagnostic étayé grâce à tel ou tel contenu trouvé en scrollant sur leur smartphone. Jean-Victor Blanc pointe, lui, que plus les personnes sont jeunes, plus elles sont à l'aise avec les questions de santé mentale. Sans compter que les troubles psychiques sont plus visibles dans les contenus culturels qu'ils regardent, comme certaines séries, et très évoqués par leurs idoles, comme les chanteurs Selena Gomez, Zayn Malik ou la mannequin Kendall Jenner, note-t-il. Pour Vincent Grégoire, directeur de la prospective au sein de l'agence de conseil Nelly Rodi, la jeune génération a trouvé dans ses comptes, dont la multiplication est manifeste depuis les confinements consécutifs à la pandémie de Covid-19, de nouveaux refuges face à la souffrance liée à diverses crises sociétales. Il ajoute, quand un phénomène la déstabilise, la génération Z plonge dans les outils numériques pour trouver des réponses. Ce sont le témoignage et l'expérience qui l'attirent le plus. Selon le pédopsychiatre Jordan Sibeoni, même les étudiants en médecine se rendent sur ces plateformes pour apprendre et réviser de façon ludique. Pour autant, il pointe l'aspect réducteur de certains contenus. « Je suis aussi inquiet quand je tombe sur des contenus qui dénigrent certaines formes de prise en charge. » Sans parler des injonctions au bien-être qui accompagnent parfois le propos de certains comptes et qui peuvent être contre-productives selon le pédopsychiatre.
Sauf que c'est quand même un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que l'injonction à la santé mentale, bien sûr, ça peut venir que des réseaux sociaux avant ou à côté, quand c'est des professionnels, n'est-ce pas, t'as pas d'injonction à la santé mentale, les réseaux sociaux. C'est le diable qui va te posséder si tu t'approches de ça.
Tout à fait. Je continue, on est dans la dernière ligne droite et on va commenter tout à fait librement ensuite. Pléthore de contenu flirte allègrement avec le développement personnel. Certains comptes affichent ainsi des publications appelant à rester zen, voire à se tourner vers la spiritualité. Fais ce qui te rend heureux, crois en tes rêves, etc.
Ça aussi, c'est quand même pas quand même une spécificité des réseaux sociaux. Il paraît que les livres qui se vendent le plus, mais vraiment hein, en quantité, c'est des bouquins de développement personnel, des bouquins plus ou moins mystiques. Et ça me fait toujours bizarre de voir incriminer ce support qui peut peut-être faire une différence quantitative, surtout sur le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes, parce que je vois pas quelque chose d'aussi efficace que ça. Enfin, on pourra en parler tout à l'heure sur les défauts de ses qualités, mais ça a vraiment cette qualité. En revanche, sur le contenu, c'est la même chose que, enfin, il y a rien de spécifique. Je veux dire, il n'y a rien de spécifique sur tout ce qu'ils viennent de désigner. Tu as ça dans les journaux, tu as des journaux qui sont plus ou moins quand même intéressants, des articles plus ou moins intéressants sur un support papier, des bouquins qui sont vraiment lamentables, carrément odieux même. Enfin, tu te dis, c'est vraiment complètement à côté de la plaque d'incriminer le support, je pense. Mais en revanche, comme c'est... Ce qui est vraiment gênant pour les professionnels, enfin on peut le développer aussi tout à l'heure, c'est la concurrence sauvage. C'est que en effet, on peut rencontrer par ce biais d'autres gens avec qui on peut, pourquoi pas, former un groupe ou au moins avoir même un rapport interpersonnel, voire se rencontrer. Enfin, on pourra en parler tout à l'heure, mais en fait, c'est un excellent moyen de rencontre, de se rencontrer comme ça sur Internet. Et donc, du coup, ben, ça leur fait quand même un grave manque à gagner. Il faut qu'ils arrivent à mettre en valeur leurs produits par rapport à la concurrence, quoi. Je pense, mais tous ceux dont ils viennent d'incriminer les réseaux sociaux, ça me paraît complètement pipeau, quoi, en un mot commençant.
Ouais. Donc, s'ils sont en concurrence, mais eux-mêmes ont leurs réseaux sociaux, donc c'est pas vraiment les réseaux sociaux qui s'incriminent, mais plutôt les...
Ouais. La concurrence de l'autogestion des rapports avec quelqu'un qui n'est pas un professionnel.
Oui.
Si ça leur rapporte des clients, mais par définition, si tout ce que tu fais gratuitement, c'est un manque à gagner pour un commerçant. Tu vois, donc,
et un contre-pouvoir pour... Oui. Donc les trucs qui appellent à rester zen, qui proposent des outils pour mieux stimuler les hormones du bonheur, telles l'ocytocine ou la dopamine. Pour certains utilisateurs comme Lou, bordelaise de 28 ans, suivi par un psychologue depuis 3 ans, développement personnel et santé mentale ne vont pas l'un sans l'autre. A l'inverse, d'autres préfèrent limiter leur nombre d'abonnements, à l'instar d'Antoine, 27 ans, auteur et metteur en scène établi en région parisienne. Je ne suis pas abonné à d'autres comptes que Bonjour Anxiété. Je ne veux pas m'enfermer dans cet univers, sachant qu'il y a beaucoup de comptes qui surfent sur cette idée du développement personnel. Je suis donc prudent, témoigne le vingtenaire qui suit actuellement une thérapie comportementale cognitive pour son trouble d'anxiété généralisé. Selon moi, rien ne vaut la vie d'un professionnel de santé. Et je suis personnellement contre l'auto-diagnostic.
Tu parles.
Après, oui, j'aurais aussi envie de dire des trucs sur ces diagnostics justement qui sont faits. Et voilà. Bon. En citant notamment Jörg Blech, les inventeurs de maladies. Qui travaille au service de l'industrie pharmaceutique. L'effet miroir. Autre écueil, celui du phénomène de mode. Selon Vincent Grégoire, c'est tendance pour certains parmi les moins de 20 ans d'avoir un problème de santé mentale. Un effet miroir peut se mettre en place. À force de voir les contenus où les gens, parfois leurs idoles, évoquent leurs troubles, certains finissent par s'en inventer, précise-t-il. De plus, certains troubles psychiatriques parmi les plus sévères ne sont pas tellement évoqués comme la schizophrénie. Ceux que l'on retrouve souvent chez les célébrités sont plébiscités sur des réseaux sociaux. Je pense au TDAH qui est, de fait, moins stigmatisé. C'est le trouble pour lequel on retrouve, notamment sur TikTok, le plus d'autodiagnostics. Il reste associé dans l'imaginaire collectif à quelque chose de moins stigmatisant ou inquiétant. Par conséquent, il reste moins tabou de parler de troubles bipolaires sur ces plateformes, alors même que Jean-Victor Blanc, cette pathologie est tout aussi... Selon Jean-Victor Blanc, cette pathologie est tout aussi fréquente que la schizophrénie au sein de la population française, mais perçue comme moins lourde. Et de conclure, malgré une démocratisation de la parole, il reste encore des zones grises concernant le sujet de la santé mentale sur les réseaux sociaux.
Ok. On peut peut-être faire une petite coupure, puis j'aimerais bien en savoir plus sur le livre dont tu as parlé tout à l'heure.
Oui, d'accord. Alors, on va écouter maintenant sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Barbara Not Dead, qui chante une reprise de Barbara, Göttingen.
Bien sûr, ce n'est pas la scène, ce n'est pas...
Barbara's Not Dead, Not Indian. Et c'est toujours l'entonnoir. Émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire. Alors, je vais aborder. Donc, on va aborder ce livre-là de critique, un livre critique aussi de Jörg Blech, Les inventeurs de maladies, manœuvres et manipulations de l'industrie pharmaceutique, pour un petit peu en réponse aussi, un rebond en tout cas, à cet article qu'on vient de lire.
Juste une parenthèse, c'est bien de l'évoquer là, mais je trouve que un livre comme ça, moi, je le lirais bien et peut-être on pourrait par la suite faire une émission entière sur ce livre. Moi, le sujet, d'accord. Je trouve que c'est vachement intéressant. Ouais. Donc ça date de 2015, ça dit
2005.
2005,
ouais,
d'accord.
Donc 2005, ça fait déjà plus de 15 ans. Alors. D'abord, un petit mot sur le diagnostic. Pour l'industrie médicale, le diagnostic est à la fois fondement commercial et premier maillon de la chaîne de création de biens. Un individu en bonne santé ruinerait ce système. Il faut donc lui attacher un diagnostic. En Allemagne...
C'est l'histoire de Knock, en fait.
Oui, c'est ça, exactement. Donc là c'est en Allemagne. Il parle de la situation en Allemagne, souvent, le plus souvent. En Allemagne, des organisations telles que la Ligue contre l'hypertension, soutenue par l'industrie, ou encore l'Association fédérale des cardiologues cliniciens, appellent sans cesse la population à s'en remettre à la prévention. Les examens qui sont ainsi pratiqués transforment des millions d'individus sains en malades de laboratoire. Il ne fait aucun doute que le diagnostic est un outil indispensable à la médecine. Il est nécessaire aux médecins, auxquels il permet d'appréhender systématiquement le chaos des maladies. Ce n'est en effet que lorsqu'il identifie le mal que le médecin peut mettre en pratique son expérience, consulter des ouvrages spécialisés et communiquer avec ses confrères. Les diagnostics informent les patients tout en indiquant aux cliniciens de quelle manière traiter telle personne. Oui, mais voilà, de plus en plus fréquemment, des individus bien portants se retrouvent affublés d'un diagnostic dès lors qu'ils pénètrent dans une salle d'examen. Pour la moitié des personnes qui consultent leur médecin traitant, aucune maladie organique ne peut être attestée, ce qui cependant ne satisfait pas aux exigences du système de santé. Les formulaires des assurances, des caisses de maladie ou des organismes de retraite exigent en effet qu'un diagnostic soit mentionné. Le médecin lui-même ne peut examiner un patient sans se décider ensuite pour un diagnostic, celui-ci devant, en Allemagne, figurer sur la feuille de soins. Alors ça, donc c'est une situation un peu particulière allemande. Alors, mais il y a un chapitre qui nous concerne un peu mieux, un peu plus, puisqu'il parle de la psychiatrie, ou plutôt, il est intitulé « Où la folie devient normalité ». Et c'est un peu là qu'on rejoint un peu la critique de l'article où la folie rejoint la normalité, c'est qu'on banalise aussi un peu les troubles mentaux. On a tendance à les banaliser comme s'ils étaient fréquents, comme si c'était presque normal. Par exemple, en France, on dit qu'en France, il y a une personne sur cinq qui est atteinte de troubles psychiques. Alors, je sais pas, moi, quand je vois, par exemple, une manifestation de 10 000 personnes, alors tu te dis, alors, il y a 2 000 personnes dans cette manifestation qui sont malades. Quoi. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Alors, le chapitre commence par l'expérience de Rosenhan, qu'on ne va pas rappeler ici, qui a fait croire à des psychiatres, c'est un psychologue qui a décrit aux médecins des voix qu'il prétendait avoir entendues pour être, etc. Et puis démontrer que leur diagnostic était bidon, puisque leur maladie était bidon. Le zèle des psychiatres qui réinterprète un comportement normal en une attitude nécessitant un traitement ne faiblit pas. Bien au contraire, le nombre de maladies psychiques répertoriées par les classifications officielles a connu ces dernières années une augmentation exceptionnelle. Après la Seconde Guerre mondiale, le catalogue de la Veterans Administration ne recensait aux États-Unis que 26 troubles. le Diagnostic and Statistical Manual and Mental Disorders, actuellement en vigueur, DSM-4 en 2005, je crois qu'il y a eu un DSM-5 ensuite, ce qui est arrivé, encore plus épais que le précédent, compte 315 maladies différentes, 395 maladies différentes que l'on peut diagnostiquer et par conséquent prendre en charge. De la même manière, quantité de troubles sont venus augmenter la classification internationale des maladies, CIM-10, utilisée en Allemagne et qui se réfère à la liste américaine. La progression épidémique de la folie et de la démence ne permet pas seulement d'assurer un revenu aux neurologues et aux psychothérapeutes, elle promet aussi aux entreprises pharmaceutiques de somptueux bilans financiers. La stratégie « vend une maladie et tes médicaments se vendront » est particulièrement courante dans le domaine de la neurologie pour la bonne raison que les critères de diagnostic y sont par nature malléables. Les campagnes d'information de l'industrie pharmaceutique visent des problèmes psychiques mineurs susceptibles de concerner un grand nombre de personnes. Les enfants indisciplinés, par exemple, se voient affublés d'une affection appelée le trouble oppositionnel avec provocation. En Allemagne, les relations financières entre psychiatres et laboratoires pharmaceutiques sont d'ailleurs monnaie courante. La Société allemande de psychiatrie, de psychothérapie et de neurologie, par exemple, est soutenue, entre guillemets, dans son action par les entreprises AstraZeneca, Aventis Pharma, Deutschland, Lilly, Novartis Pharma et Organon. Les infopresses financées par les entreprises attirent constamment l'attention de l'opinion publique sur de nouveaux troubles psychiques. On pouvait ainsi lire en septembre 2002 « Dépression, angoisse, manie », tels sont les nouveaux mots de la civilisation. Certains neurologues s'étonnent pourtant de cette situation. Les méthodes de commercialisation de l'information se sont développées à tel point que la façon de penser des médecins et du public peut être modifiée de manière radicale en l'espace de quelques années, estime le psychiatre britannique David Healy. Les médecins ne semblent pas surpris de voir la fréquence des troubles se multiplier par 1000. Voilà, je pourrais lire encore pendant longtemps.
Pourquoi pas?
Ouais, si vous voulez. Si vous
remarque,
voulez,
si on doit faire une autre émission sur le livre, peut-être que on peut conserver pour une autre fois la lecture en question et puis voir, je suppose que tu as des commentaires sur ce sujet.
Oui, alors. En fait, voilà, ce que je voulais. Ce que je voyais aussi à travers cet article de Libé, c'était que. La psychiatrie tend à toujours plus se diffuser dans la société pour ses affaires, effectivement, pour faire de bonnes affaires, en fait, tout simplement. Mais elle sert aussi d'outil, de contrôle social que l'État. Dont l'État a besoin, en fait, aussi.
Pour quoi faire ?
De contrôle social, c'est-à-dire quelqu'un...
Comment ? Je veux dire plutôt pas...
Quelqu'un qui
se présente comment, d'un point de vue pratique, ce contrôle ?
Ce contrôle, c'est... Alors, c'est-à-dire... par rapport au comportement, quoi, le contrôle des comportements. Et qui va... s'ils sont trop... inquiétants ou insolites, et qui peuvent... Alors, il y a la notion de trouble à l'ordre public qui vient...
Mais est-ce que c'est les troubles à l'ordre public, je sais que des fois ça peut arriver, mais est-ce qu'on psychiatrise, par exemple, le militantisme ou le syndicalisme, n'importe quoi, tout ce qui peut être comportement comme ça, j'ai pas le sentiment que de la part de l'État, il y aurait une volonté de le psychiatriser, de le réprimer, oui, ça c'est, il n'y a pas d'erreur, mais de le psychiatriser, je suis pas sûre. Moi, ce que je vois plutôt comme volonté de psychiatriser, tu as évoqué les enfants, dans le livre, ils évoquent les enfants, et en effet, les enfants sont volontiers psychiatrisés.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est bizarre, justement, je voulais proposer pour une prochaine fois un livre de Simone de Beauvoir qui s'appelle « Des belles images », où cette question question-là est évoquée. Une petite fille est perturbée parce que elle découvre les actualités et que le monde est horrible. Elle est perturbée quand elle voit ce que c'est que l'état du monde. Et sa famille, c'est des gens plutôt des classes supérieures d'ailleurs, moyenne à supérieure, hein, dit il faut l'envoyer chez le psy parce que elle pleure la nuit. Et puis, à un moment donné, enfin, l'héroïne se dit mais enfin c'est normal, c'est normal de d'être perturbé quand on découvre l'horreur du monde. Et l'envoyer chez le psy, après tout, c'est peut-être qu'elle peut gérer cette émotion, et pourquoi pas en essayant de faire ce qu'elle peut pour lutter contre, pourquoi pas. Mais c'est normal de pas avoir la banane quand tu vois qu'il y a des enfants ou des gens en général qui meurent de faim, les injustices du monde, c'est normal, entre guillemets, c'est logique, on va dire, enfin en tout cas c'est la réaction qui paraît la plus appropriée de flipper quand tu vois ça, quoi. Donc, et ça, c'est plutôt envers les enfants. Quoique même dans le même livre, à un moment donné, on voit l'héroïne qui est effectivement à un moment où elle est très très perturbée en apprenant comment on torture les gens en Amérique du Sud, etc. Et que pendant une période comme ça, elle est vraiment secouée, quoi. Et ben, on l'envoie chez le psy. Mais ce n'est pas une initiative étatique, je veux dire. C'est plus ou moins quand même des réactions... des réactions des parents, des enseignants. Tu vois, bon, par exemple, moi, mes enfants, quand ils étaient petits, ils écoutaient pas. Enfin, on m'avait dit, faut le mettre chez le psy, parce que quand ça l'intéresse pas, il écoute pas. J'ai dit, je vous dirais que je suis assez comme ça aussi. De quand ça m'intéresse pas, j'écoute pas. Et je leur disais, vous êtes peut-être moins chiant aussi, peut-être. Mais tu vois, l'idée, c'est, ça vient pas de l'État. Ça vient de gens qui sont en position de pouvoir direct, mais pas enfin moi personnellement, hein, oui. je vois pas de décret ou d'un truc qui comme il peut y avoir des lois dans d'autres domaines.
Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des lois sur la psychiatrie aussi. Hein, il y a la loi du 5 juillet 2011 qui durcit un petit peu les conditions de sortie, par exemple, des psychiatrisés, ou qui facilitent l'entrée dans les hôpitaux. Voilà. Et qui sont des lieux où il s'est avéré nécessaire que des juristes, des juges, y jettent un peu un œil au moins éviter que ce soit une zone de non-droit, quoi.
D'accord.
Sinon, alors, c'est-à-dire que moi, si tu veux, quand je parle de l'État, c'est sur un plan plus historique qu'actuel. Parce qu'actuellement, effectivement, on peut très bien dire que ce mouvement-là, dans les réseaux sociaux, de la psychiatrie à travers les réseaux sociaux, on peut le voir comme une prolongation de quelque chose qui ressemblait justement au secteur, ce qui était pensé comme le secteur par les désaliénistes de Saint-Alban à la moitié du XXe siècle, qui est évoqué par Olivier Brisson, qui loue cette organisation des services de soins en psychiatrie désaliénistes ouverte sur la cité et non plus enfermée dans ses murs, où les pratiques soignantes et les pratiques culturelles visent la réinscription de la personne en soins dans le collectif social. Donc c'est une vision assez optimiste d'une psychiatrie peut-être de demain, ou je sais pas. Mais je me souviens aussi je suis retombé sur un article de Michel Foucault qui commente un livre de comment il s'appelle, Castel, dont le prénom est Robert Castel, qui a écrit un bouquin qui intitulé L'ordre psychiatrique en 1977. Et ce commentaire de Foucault dit la chose suivante. Alors, Castel établit solidement trois thèses. La psychiatrie n'est pas née dans l'asile, elle fut d'entrée de jeu impérialiste. Elle a toujours fait partie intégrante d'un projet social global. Sans doute, l'un des premiers soins des aliénistes du XIXe siècle a été de se faire reconnaître comme spécialiste. Mais spécialiste de quoi ? De cette faune étrange qui, par ses symptômes, se distingue des autres malades ? Non pas, mais spécialiste plutôt d'un certain péril général qui court à travers le corps social tout entier, menaçant toute chose et tout le monde, puisque nul n'est à l'abri de la folie ni de la menace d'un fou. L'aliéniste a été, avant tout, le préposé à un danger. Voilà. Et je voulais voir... Ah oui. Et lorsque chez nous... Alors c'est un peu plus loin dans le texte. Et lorsque chez nous, on propose une psychiatrie de secteur qui fonctionnerait hors des murs de l'asile, qui répondrait aux demandes plus qu'aux injonctions, une psychiatrie ouverte, multiple, facultative, qui, au lieu de de déplacer et d'isoler les malades, les laisserait sur place et dans leur milieu, peut-être prépare-t-on en effet un dépérissement de l'asile. Mais est-on en rupture avec la psychiatrie du XIXe siècle et avec le rêve qu'elle portait dès l'origine ? Le secteur, entre guillemets, n'est-il pas une autre façon, plus souple, de faire fonctionner la médecine mentale comme une hygiène publique, présente partout et toujours prête à intervenir ?
Oui, bah en effet. Ouais. Bah oui, je pense que c'est assez bien vu. Pour une prochaine fois, je proposerai aussi de faire peut-être une émission sur l'ethnopsychiatrie. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément porter ça au pinacle, évidemment. L'ethnopsychiatrie, ça peut être une forme de psychiatrie. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est plutôt le fait de voir comment, dans différents pays, on gère la notion de déviance, entre guillemets, tu vois. Enfin, et qu'en réalité, on se rend compte que dans toutes les cultures, il y a la notion de modèle d'inconscient. Conduite socialement proposée, c'est-à-dire que tu deviens... Il y a des maladies qui n'existent que dans certains pays et d'autres qui n'existent absolument pas, et que la façon aussi de gérer ça diffère. Mais il y a cette idée que c'est prévu, qu'il y a un espace exprès, quoi. Tu vois, qu'il y a une réponse à tous les... à absolument tous les cas de déviance, et qu'en réalité c'est comme s'il n'y avait pas de place vraiment pour l'individu, comme s'il fallait les canaliser, l'idée de gens qui seraient des refuseniques. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vrai aussi dans les pays occidentaux, et bien entendu, et puis la réponse peut être violente, quoi, plus violente que dans d'autres cultures. Parce que vraiment, il y a une notion de normes, je crois, qui est plus prégnante quand même. Enfin, le côté « je veux voir qu'une seule tête », tu sais, comme dans « Another Brick in the Wall », tu vois, je veux dire, et quelque chose qu'on a pu ressentir nous-mêmes, quoi, ce refus de tout ce qui peut déborder. Et puis, des espaces où, par exemple, les artistes, enfin, moi, je trouve, hein, du moment, enfin, moi, quand j'étais gamine, on disait que j'étais folle parce que j'étais très extravertie et que je faisais des trucs bizarres, quoi, on va dire. Et puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte que je dessinais bien, et tout d'un coup, on m'a très exagérément comparé à Salvador Dali, du genre, j'avais le droit d'être extravagante parce que j'étais une artiste, et je trouvais ça complètement ébouriffant comme idée. Mais reconnais que c'est vrai, les artistes ont le droit, ont beaucoup plus le droit à des comportements extravagants que, je sais pas, les ouvriers ou les employés de bureau, je trouve. Voilà.
Eh bien, voilà une belle perspective, effectivement. Alors, bon, on a encore 3 minutes, donc on va peut-être passer un morceau, et puis on va se dire au revoir.
Ouais.
Ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.
Vital Santan, le rag avec bande bien contrôlé, le versement à l'or, Mike, c'est l'exercice, ça va s'affoncer, une rhythm.
J'ai été malade toute ma vie. Je ne demande qu'à continuer.
Bien, madame. Bien, madame. Bien. Mes mouvements, paraît-il, ne sont pas trop habiles. Mes idées, mes paroles, mes idées, sont plutôt débiles. Dans la rue, les gens sont imbéciles, un mot était d'imbécile. Je sens bien que l'on ne veut plus m'accepter dans cette ville.
Je t'appuie, j'ai pas honte, moi je suis mongol. Tu petit déjà envolé, me noyer dans le formol. À plusieurs reprises, on m'a déjà passé la camisole. Mais petit ou grand, je ne ferai jamais de mal à une bestiole. J'ai déjà assez suivi des primates sur les bancs de l'école. La lobotomie m'a laissé des traces indélébiles. Mais qui sont-ils pour certifier que tu es folle? Rigole, rigole, fais le marié, mais n'écoute pas leurs paroles.
Il faut se faire au fait qu'on est hydrocéphale, on est bien parti pour aller d'hôpital en hôpital. Il faut se faire au fait qu'on est hydrocéphale, on est bien parti pour aller d'hôpital en hôpital. Hydrocéphale sur boum, hydrocéphale sur boum, hydrocéphale, hydrocéphale, hydrocéphale sur boum. Hydrocéphale sur boum, hydrocéphale sur boum, hydrocéphale, hydrocéphale, hydrocéphale sur boum.
Pequeño mongolito que da solo con su perro, porque sabe que el humano no quiere bueno a ello. Desde que nació tocándose su polla, una vez solamente se veía en su vida.
La frontera entre résigné et anormal est bien infime, quand on souffre c'est fatal. Écran dans chaque hôpital, régulation et contrôle, partout le même mal.
Hydrocéphale,
je ne suis pas une erreur médicale.
Hydrocéphale,
univers d'hôpital, univers carcéral.
Hydrocéphale,
non je ne suis pas un animal.
Hydrocéphale,
reste un fatal dans ce monde de chacal. Boum dans ma tête, tout ce soir c'est la fête. Avec tous mes amis, cette nuit c'est Patochi. Oui je plane à 15 villes avec tout ce qu'on nous file. Avec tous ces cachets pour nous rendre plus dociles.
Il faut se faire au fait qu'on est hydrocéphale. On est bien parti pour aller d'hôpital en hôpital. Il faut se faire au fait qu'on est hydrocéphale. On est bien parti pour aller d'hôpital en hôpital.
C'est plus
hydrocéphale sur boum, hydrocéphale sur boum, hydrocéphale, hydrocéphale, hydrocéphale sur boum. Hydrocéphale sur boum, hydrocéphale sur boum, hydrocéphale, hydrocéphale, hydrocéphale sur boum.
Attention, il existe une autre espèce d'hydrocéphale. Ceux-là même qui par leur prix montent sur la grosse tête. À cela, je leur dis mes poches, chatouillez-vous la tiquette. Car bientôt, ce sera leur tour de gommer du cardinal.
Tais-toi, je renais maintenant, tais-toi, je te dis, ferme-la, ferme-la, t'es qu'un invité.
Tiens donc à tes cellules.
Tu es bon pour la cellule.
Insuffisance intellectuelle.
On te jette à la poubelle.
Les gols que l'on fin.
Ils ont froid, ils ont soif.
Et tout seul dans le noir.
Ils ont perdu espoir.
Tu cries, cries, tu pleures et tu gesticules. Ta bouche bouge, c'est d'or. Mais jamais l'articule.
Il faut se faire au fait qu'on est hydrocéphale. On est bien parti pour aller d'hôpital en hôpital. Il faut se faire au fait qu'on est hydrocéphale. On est bien parti pour aller d'hôpital en hôpital. Hydrocéphale sur boum, hydrocéphale sur boum, hydrocéphale, hydrocéphale, hydrocéphale sur boum. Hydrocéphale sur boum, hydrocéphale sur boum, hydrocéphale, hydrocéphale, hydrocéphale sur boum.
Hydrocéphale.
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 Il n'aurait jamais vu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé.
Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort. Couver doucement la mort. Couver doucement la mort. Couver doucement la mort.
rayon de soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Tu peux nous